Matière sensible à la fiction, aujourd'hui Star Wars, la naissance d'un mythe, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Philippe Touzet, réalisée par Sophie Haute-Picon. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la fiction, nous vous racontons l'histoire, ou plutôt la saga de la guerre des étoiles, dont le dernier volet sortira au mois de décembre sur les écrans français. Dans l'attente, revenons au début, à la naissance du mythe et à l'invention de ce divertissement mondial. Nous sommes en 1977. Sort en salle La guerre des étoiles, écrite et réalisée par George Lucas. Ce film est le premier volet d'une trilogie dont les suivants seront L'Empire contre-attaque et Le retour du Jedi. C'est aussi le troisième long métrage réalisé par George Lucas. Il commence l'écriture du scénario en 1973. La production du film durera 2 ans. Les premiers studios, United Artists et Universal, refusent le script. Ce sera la 20th Century Fox qui s'associera au projet, surtout après la sortie du film précédent de Lucas, American Graffiti, qui fut un succès critique et public dès sa sortie en août 1973. Alors, que raconte le film? Eh bien, une révolution, celle de l'Alliance rebelle contre l'Empire et Dark Vador. Une lutte entre les chevaliers Jedi et les Sith, ou le côté obscur de la Force, la guerre du bien et du mal. Tous les noms des héros de cette époque galactique s'imprimeront dans la mémoire collective. Luke Skywalker, le jeune héros, Han Solo, le contrebandier, pilote du vaisseau spatial, ou encore la princesse Leia, R2-D2, le robot, ou Chewbacca, et bien sûr, Darth Vader, le très méchant, et Yoda, le Jedi, une sorte de Socrate, philosophe intergalactique. Une métaphore, tout cela, sans aucun doute, une métaphore de l'histoire de l'Amérique. Mais pas seulement, car la guerre des étoiles puise son inspiration dans les westerns, les films de sabre, les films de guerre, les séries de science-fiction, bref, la saga mélange toutes les cultures et références populaires en y ajoutant le mythe fédérateur, le mythe d'Ulysse, le voyage du héros. Comparé à 2001 ou l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, sorti en salle quelques années plus tôt, qui est d'une grande rigueur scientifique, la guerre des étoiles est, comme le pensent beaucoup de savants, une sorte de Canada Dry de la science, autrement dit, qui fait scientifique sans l'être. Mais quelle importance! La force de la série, son mystère, se situe loin des équations ou des théories physiques. Non, son univers est intemporel. Les héros traversent nos mythes, nos légendes, nos peurs, nos rêves, nos espoirs. Star Wars, la guerre des étoiles, sera bientôt une série de 8 films, dont le dernier opus, le 8e donc, est prévu pour décembre. De 1977 à 2017, 40 ans auront séparé les deux œuvres. Star Wars est aussi une date et une marque inscrite dans la mémoire de tous les spectateurs et cinéphiles, car on se souvient forcément de notre première expérience lors de la première projection de la guerre des étoiles à laquelle on a assisté. On sait pourquoi on y était, on sait avec qui on y était. Et aujourd'hui, 40 ans après la sortie du premier volet, on se dit que c'est quand même formidable de pouvoir redevenir un enfant et d'attendre avec cette impatience têtue la sortie en salle des derniers Jedi. Après la fiction, pour poursuivre l'aventure de la guerre des étoiles, nous recevrons Thomas Negaroff, historien, spécialiste des États-Unis et auteur d'un essai publié en 2015 chez Naïve, intitulé « Je suis ton père, la saga Star Wars, l'Amérique et ses démons ». Avec lui, nous aborderons le lien entre Star Wars et l'histoire américaine.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
From a place you've never heard of, a story you'll never forget. Star Wars.
Star Wars.
The birth of a myth.
La naissance d'un mythe.
By Philippe Touzet.
De Philippe Touzet.
Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Quoi ça?
Cette musique.
Mais monsieur Lucas, c'est l'intro de Star Wars.
Mais ça, je sais. Mais pourquoi là, au début? Pourquoi vous mettez cette musique au début de votre documentaire?
Ça me permet de faire une belle intro, de planter tout de suite le décor.
Moi, je ferai pas ça. Je mettrai pas la musique comme ça d'entrée. Ça va pas du tout. Vous comprenez?
Je suis pas certaine.
Bon, nous sommes dans une salle de montage.
Oui.
Vous montez un documentaire?
Oui.
Pour la radio?
C'est ça.
Est-ce que vous avez évalué un seul instant la puissance évocatrice de la musique de Star Wars? Dès les premières notes, on est dans le film, avec tous les héros de la saga, de Luke Skywalker à Darth Vader, en passant par Chewbacca. Et si vous faites ça, mais vous pulvérisez le début de votre documentaire. Vous commencez trop haut, du coup vous ne ferez que descendre. C'est comme si vous racontiez une histoire avec des alpinistes qui sont parvenus au sommet de l'Annapurna et qui retournent vers le camp de base. Mais quel intérêt? Non, non, il faut partir du début.
Mais j'ai peur que ce soit linéaire.
Vous sortez de l'école, c'est ça?
Oui, je suis diplômée de l'Université de Californie du Sud, l'USC, comme vous.
Et c'est votre premier documentaire?
Oui.
Alors, si j'ai bien compris, vous avez interviewé tout le monde.
Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher, enfin tous les rôles principaux de la saga, les gens de la Fox, les techniciens, et vous aussi, bien sûr.
Vous vous êtes bien débrouillé.
Merci.
Et après toutes ces heures d'entretien, vous pensez toujours que l'histoire de la création de Star Wars est linéaire?
Je me suis mal exprimée. Je voulais pas dire ça. Au contraire, c'est incroyable. On pourrait en faire un film.
Bon, entre nous, dites-moi la vérité. Vous avez commencé par la fin.
C'est ça. Le 25 mai 77, le jour de la sortie aux États-Unis. Les files de spectateurs à n'en plus finir devant les cinémas. Le film qui devient un phénomène de société, qui va rapporter des millions et des millions de dollars.
Alors, si vous commencez par la fin, vous finissez par quoi? Par le début?
Oui, on peut dire ça comme ça. Un peu comme un immense flashback.
Vous commencez par l'attaque et l'explosion de l'étoile de la mort et vous finissez par un jeune homme inconnu en train d'écrire Star Wars dans son coin.
À l'époque, vous aviez déjà réalisé...
Oui, oui, THX 1138 et American Graffiti. Bon, écoutez, on va revoir tout ça.
Mais je voulais simplement avoir votre avis.
Il faut tout reprendre à zéro.
Non, mais c'est pas possible.
Bon, là, je peux pas. Il faut que j'aille à côté pour voir comment ça se passe, le montage du Réveil de la Force. Mais comme nous sommes dans le même labo, c'est parfait. Je reviens dans une heure.
Je peux pas accepter.
Vous avez raison. En fait, je vais revenir dans trois quarts d'heure. C'est pas mal, mais ça va pas. C'est trop connoté Woodstock. Et Woodstock, c'est en 69. J'ai fini d'écrire le premier scénario de Star Wars en 73. Et en 73, on est entre Carlos Santana et John Travolta. Et on est aussi en pleine guerre du Vietnam. Hendrix, ça aurait été pas mal. Mais bon, non, c'est pareil, c'est trop évident, c'est trop facile. Faut trouver une musique de 73. Du style le tube de l'été, voilà, un standard. Enfin bref, vous vous débrouillez.
Je vais chercher et je vais trouver.
Après 2001, l'Odyssée de l'espace, plus personne n'osait faire un film de science-fiction. Alors quand moi, je suis arrivé avec mon idée de conte de fées galactique, bah on peut dire que j'ai été bien reçu.
Universal et United Artists ont refusé votre projet.
Oui, il faut dire que c'était pas très clair. Mon scénario faisait 14 pages, c'était plutôt un long synopsis. Je voulais faire un film pour les jeunes, moi, pour les enfants, une sorte de fantasy spatiale avec beaucoup d'aventures. Un peu comme les films de Buck Rogers dans les années 30, ou la série télé des années 50, Flash Gordon. Et quand je terminais ma présentation, les producteurs me regardaient les yeux ronds, la bouche grande ouverte, et ils se disaient... Mais ce type est dangereux. Il vient d'inventer un manuel pour faire couler un studio avec un seul film.
Vous aviez déjà trouvé tous vos personnages?
Pour les personnages récurrents, oui. Même si pour la plupart, ils étaient encore à l'état d'ébauche. Au début, par exemple, Luke s'appelait Luke Starkiller. À un moment donné, j'en ai fait un général de 60 ans. Et puis, il est devenu un jeune fermier idéaliste de 18-20 ans. Et j'avais imaginé Han Solo comme un gros reptile tout vert avec des branchies. Alors peut-être que la carrière d'Harrison Ford aurait été sensiblement différente s'il avait porté un masque avec des yeux globuleux pendant toute la trilogie. De toute façon, je vous ai déjà dit tout ça quand vous m'avez interviewé. Vous n'avez plus besoin de moi.
J'ai l'impression que je me suis planté du début à la fin.
Mais non, vous cherchez, vous tâtonnez. Le montage fait partie du processus de création.
Pour Star Wars, le premier montage était une catastrophe. J'ai dû licencier le monteur. J'ai fait appel à deux autres types et aussi à Marcia, mon ex-femme, qui à l'époque faisait le montage de New York, New York de Scorsese. On était en retard, complètement grillés au niveau des délais. Il fallait tout recommencer à zéro. Notre objectif, c'était de donner au film une énergie et un rythme qui faisaient cruellement défaut au premier montage. Dans la première mouture, le monteur avait laissé les comédiens décider du rythme de la scène. Alors que les trois autres ont multiplié les coupes. En fractionnant les scènes, ils ont élevé le rythme. Ils ont augmenté la tension dramatique et sauvé le film. Allô ? Oui, je suis encore là, je suis juste à côté. Non mais attendez là, les filles, je suis simplement venu vous dire bonjour, hein. Je suis pas crédité au montage du Réveil de la Force, moi. Oui ? Ok, bon, j'arrive. Mais 5 minutes, pas plus.
Je vous remercie vraiment d'être passé me voir.
Mais je reviens. On n'a pas fini.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est sorti en 73.
Oui, c'est Paul McCartney.
Oui, j'avais reconnu.
C'est bien, non ? C'est populaire et en même temps, ça bouge bien.
C'est certain, c'est de la belle ouvrage, mais nous avons un petit problème.
Ah bon, c'est quoi ?
C'est la musique d'un James Bond.
Je suis nulle. Je suis vraiment nulle.
Quand j'ai rencontré pour la première fois Alan Ladd Jr., qui venait d'être nommé directeur créatif de la 20th Century Fox, je vous prie de croire que je n'emmenais pas large. Avec pour tout bagage mon scénario de 14 pages, j'exagère un peu, hein. Je venais de terminer American Graffiti.
Attendez, j'ai justement gardé le passage où il parle de ça. Alors, Alan Ladd Jr., à 13 minutes et 18 secondes.
Ah, c'est pas ça, hein. Ou alors, Alan, il faut qu'il arrête de fumer.
Excusez-moi, je me suis trompée. Mais bon, dans un sens, c'est pas plus mal. Ça me permet d'en parler avec vous. Dans le documentaire, en ce qui concerne les effets spéciaux sonores, je me suis amusée à faire un petit quiz. Toutes les 10 minutes, grosso modo, je pose une petite question. En fait, j'ai demandé aux comédiens et c'est eux qui posent les questions. Ils ont été très sympas.
Et c'est quoi les questions ?
D'après vous, comment a été réalisée la respiration de Darth Vader ? Comment ont été conçus les grognements de Chewbacca ? Le mode d'expression de R2-D2. Et à la fin du documentaire, je fais intervenir Ben Burtt, qui est le concepteur sonore de Star Wars. Et il répond à toutes les questions.
C'est intéressant.
C'est ludique.
Mais après, il faut toujours se méfier des fausses bonnes idées. Mais on verra ça plus tard.
Hein ?
Pourquoi plus tard ? On va vérifier ça tout de suite. Je vais chercher les deux monteuses du Réveil de la Force. Hein ? Ça va leur faire une pause.
Attendez, je vous le remets.
Pour Chewbacca, Ben Burtt a dû utiliser les mêmes procédés que pour le cri de Tarzan. Il a mixé plusieurs cris d'animaux.
Mais qu'est-ce que tu racontes ? Johnny Weissmuller était d'origine autrichienne. Le cri de Tarzan, c'est tout simplement un yodel monté à l'envers et en accéléré.
Ah bon ? Pour le yodel, je savais, mais je croyais qu'il avait été mixé avec le cri d'une hyène.
Et aussi le cri d'un chameau, le grognement d'un chien. En fait, on n'en sait absolument rien. Et nous nous éloignons du sujet.
Alors, Chewbacca, vous avez trouvé ?
Je suis persuadée que ce sont des cris d'animaux.
Tu as raison.
Ah, tout de même !
C'était pas très compliqué.
Alors, si c'est pas très compliqué, quels animaux ?
Oui, parce que j'attends ça avec impatience.
Et toi, à part dire plusieurs cris d'animaux, tu peux en trouver un au moins ?
Vu la carrure de Chewbacca, je dirais le grognement d'un ours.
Bien joué.
Bon, là aussi, je pourrais dire c'est pas très compliqué. Et bon, je le dis pas, je veux pas passer pour une mauvaise joueuse.
C'est ça.
Comme il a une belle crinière, je dirais le rugissement d'un lion.
Bravo à toutes les deux. On peut aussi ajouter l'aboiement d'un chien, le feulement d'un tigre et le meilleur pour la fin, le cri d'un morse.
Oh, on peut réécouter pour voir ?
Oh Alors là, celui-là, on l'aurait jamais trouvé.
Parle pour toi.
Le cri de Tarzan, c'est un cri de victoire. Ni plus ni moins. La plupart du temps, après une bagarre avec un crocodile, un gorille, ce que vous voulez. Mais pour Chewbacca, c'est différent. Sa manière de s'exprimer, ce sont ses grognements. C'est son langage. Ben Burtt avait créé un grand nombre de phrases qui étaient censées exprimer les sentiments de Chewbacca. Chewbacca triste, Chewbacca en colère, Chewbacca joyeux, et qui fait une remarque à Han Solo, etc.
On a bien fait de venir, on en apprend des choses.
Un an avant le début du tournage, Ben avait commencé à créer une sonothèque constituée de sons que personne n'avait jamais entendus. Des sons qui venaient d'une autre galaxie.
Exact.
Bon, c'est pas tout ça, mais faut qu'on retourne au boulot.
Très bien, Jessica, ton idée de quiz, vraiment. On verra au final ce que tu en fais, mais c'est original.
Merci, Marianne.
En plus, on est sur un passage ultra délicat. C'est le moment où Han Solo...
Mary Jo.
Bah quoi, j'ai rien dit.
Oui, mais c'était pas loin.
Qu'est-ce qui se passe avec Han Solo?
Et voilà.
Han Solo va tomber amoureux d'une alien qui a 2 têtes, 8 bras et 3 jambes. Et là, nous en sommes au montage de la scène. Comment dire...
Charnel? Torride.
Oui, voilà, on peut dire ça. La scène est très peu éclairée et c'est très difficile de se repérer avec toutes ses jambes, tous ses bras.
C'est ultra délicat.
C'est vrai?
Non, c'est pas vrai.
En revanche, nous avons signé une clause de confidentialité qui doit faire dans les 35 pages. On ne doit rien dire sur le réveil de la force. Rien de rien. Et rien qu'en disant ça, j'en ai déjà trop dit.
Si t'as le malheur de parler pendant ton sommeil, ils sont capables de faire un procès à ton marchand de matelas.
Et ça, c'est vrai.
Je ne sais même pas sur quelle planète je suis.
Eh bien, s'il y a un point central dans cet univers, tu es sur la planète qui en est le plus éloignée.
Je remercie, monsieur.
Au secours, Obi-Wan Kenobi. C'est mon seul espoir. Au secours, Obi-Wan Kenobi. Vous êtes mon seul espoir.
Luke est tout sauf un fermier, Owen. Il ressemble trop à son père, ce gamin.
C'est bien ce qui me fait peur.
La force?
Oui, la force qui donne au chevalier Jedi son pouvoir. C'est une sorte de fluide créé par tout être vivant, une énergie qui nous entoure et nous pénètre et qui maintient la galaxie en un tout unique.
De créer un concept religieux et spirituel qui marche très simplement, sans qu'on soit obligé de passer la moitié du film à expliquer le pourquoi et le comment. Star Wars est avant tout un film d'action. Après l'accord avec la Fox, j'ai passé 1 an à écrire le scénario. L'histoire m'a complètement échappé. J'ai écrit 200 pages, il y avait largement de quoi faire 3 films. Le problème, c'est que j'avais tout juste assez d'argent pour n'en tourner qu'un seul. Qu'est-ce que j'allais faire des 2 autres? Et surtout, qu'est-ce que j'allais faire de cette saga? Car je sentais confusément que j'étais en train de pénétrer dans un no man's land temporel. Un projet insensé qui allait engloutir une grande partie de ma vie.
Ça y est, j'ai passé mon petit coup de fil, j'ai grignoté 1 heure. Mais après, je pourrais pas rester, hein, j'ai rendez-vous avec des amis.
Je parle de 3 films. En fait, je devrais dire trilogie, car c'est une trilogie. Et même si je ne savais pas si je pourrais tourner un jour ou l'autre les 2 autres films, j'ai retravaillé l'écriture et j'ai filmé Star Wars, un nouvel espoir, comme si c'était le premier acte d'une trilogie, le film fondateur d'une saga.
Vous en êtes où?
On a passé Alan Ladd Jr.
Et qu'est-ce que vous avez gardé?
Le premier rendez-vous. Avant de vous voir, il avait demandé à visionner American Graffiti, qui était encore en montage.
Oui, c'est vrai.
Il a adoré le film. Et il s'est dit, ce jeune homme est un futur très grand réalisateur. Et surtout, il est en phase avec les attentes de notre époque.
On va peut-être couper ça au montage, hein. Ça fait un peu beaucoup.
Je suis pas d'accord, il le pense réellement.
Alan Ladd Jr. a investi en moi, pas dans le film. Il croyait en moi. Pour lui, le projet Star Wars était presque anecdotique. Il m'a donné sa confiance, d'homme à homme.
Et vous voulez qu'on coupe ça au montage ?
Non, bien sûr que non. Mais je connais Alan parfois, il est un peu trop élogieux.
Le passage est très bien. Il parle aussi des réticences du conseil d'administration de la 20th Century Fox.
Et comme par hasard, toutes ces réserves se sont envolées quand American Graffiti est devenu un énorme succès.
J'ai enregistré les conseils d'administration comme des scènes de fiction, avec des comédiens.
Un quiz, des scènes de fiction, c'est plus un documentaire, c'est un concept. Il va faire combien, votre doc ?
3 heures.
3 heures ?
Je vais essayer de le vendre par tranche de 30 minutes.
Mais c'est préférable. Bon, alors, on écoute ce board de la Fox ?
J'en ai enregistré 3. 3 conseils d'administration qui me semblent importants dans l'histoire de Star Wars. Le premier qui vous a permis de vous lancer dans l'aventure. Le second au moment du casting.
Ah ça, ça a été un grand moment.
Et le troisième à la fin du tournage et au moment de la post-production.
Ah, l'ambiance était particulièrement tendue.
Vous allez voir, ou plutôt entendre. Ce sont de courtes vignettes, mais qui m'ont permis d'éviter un empilage d'interviews. Et puis je pense que ça dynamise le récit.
Moi, je t'avoue, Alan, je suis sceptique. J'y crois pas un quart de seconde à cette histoire.
Si Universal et United Artists ont refusé le projet...
Oui, c'est qu'il y a bien une raison.
Évidemment.
Moi, j'y crois. Je crois en ce réalisateur.
Oui, mais là, on te parle du film.
Ah. C'est quoi cette histoire avec cette princesse dans les étoiles ?
Moi, j'ai rien compris.
Oh, ça va, faut quand même pas exagérer, c'est pas 2001.
Et puis aussi cette ours là, tout poilu.
J'ai vu son film, American Graffiti, c'est bon, c'est très très bon. Je vous dis que ce garçon a très fort potentiel.
Oui, mais Alan, encore une fois, tu nous parles de ce type ou alors d'un autre film. Moi, je te parle de Star Wars.
C'est pas un petit film qui va être tourné au coin de la rue.
Ça se passe au confins de la galaxie.
Et ça va nous coûter un paquet de pognon.
Je fais confiance à George Lucas.
Bon, c'est toi le directeur créatif ?
Et tu en prends la responsabilité ?
Oui. Attention, Alan, c'est comme au poker. Si tu mises sur George Lucas et que tu perds, tu seras obligé de quitter la table.
Alors ?
Oui, c'est bien. Ça a dû se passer comme ça.
Vous voulez écouter les deux autres ?
Non, je peux pas, j'ai pas le temps. Vous pouvez me dire 2 ou 3 mots sur le découpage ?
Après le passage qu'on vient d'entendre, j'ai un petit bout d'interview avec Alan Ladd Jr., où il annonce que la Fox a débloqué 8 millions de dollars. Du coup, vous commencez le casting.
Non, vous allez trop vite. D'abord, je me suis lancé dans l'écriture.
C'est vrai, vous avez écrit pendant 1 an. Et après, vous avez commencé le casting.
Non. À l'été 75, j'ai créé la société d'effets spéciaux Industrial Light and Magic. C'est pas que j'avais la folie des grandeurs, mais à l'époque... Tous les studios avaient fermé leur département effets spéciaux.
C'est incroyable.
C'était il y a 40 ans. Un autre monde. Pour en revenir au conseil d'administration de la Fox, ils m'ont accordé la jouissance des produits dérivés pour rien. Vous vous rendez compte ? Tout simplement parce qu'ils ne voyaient pas l'intérêt de vendre des t-shirts, des casquettes, des figurines Star Wars. Moi, j'y ai vu mon intérêt. J'étais pas devin. Et je ne pouvais pas anticiper l'importance que prendrait la vente des produits dérivés dans le montage financier d'un film aujourd'hui. Je ne pouvais pas imaginer que la vente de mugs, de peluches, de poupées, de puzzles... de bonbons allait m'apporter une réelle indépendance en ce qui concerne la production de mes prochains films. Allô ? Oui, Mark, qu'est-ce qu'il y a ? Non, je ne suis pas chez Carrie. Je l'ai appelé tout à l'heure pour lui dire que je serai un peu en retard. À toi aussi, tu es un peu en retard et tu n'arrives pas à la joindre. Bon, j'espère que Harrison est arrivé, sinon on va se faire tirer les oreilles. T'es où ? Ok, en fait, t'es pas loin des studios de montage. Tu peux passer me prendre ? T'es là dans 2-3 minutes ? C'est parfait, à tout de suite. Bon, je dois partir. C'était un vrai plaisir.
Pour moi aussi, vraiment. Je pouvais pas espérer mieux. C'est dommage, on n'a pas pu voir les auditions.
Amusez-vous avec le casting, hein. Les gens, ils adorent ça. Ils ont l'impression d'être dans la cuisine d'un grand restaurant. C'est toujours très sympa. Ça m'a quand même pris 7 mois. J'ai auditionné des milliers de personnes, tout ça pour choisir Harrison Ford, qui était là depuis le début. Il avait déjà tourné pour moi dans American Graffiti. Je savais qu'il avait besoin d'argent.
Alors, je lui avais demandé de donner la réplique en tant que Han Solo à des dizaines de Luke Skywalker. Comment s'appelle votre documentaire ?
Star Wars, la naissance d'un mythe.
Alors, le hasard a bien fait les choses. Pour moi, la naissance d'un film, c'est la création et la production. Le tournage, c'est les premiers pas. Et la sortie du film, c'est le premier jour à la crèche. Envoyez-moi un CD, hein, et on se tient au courant. Bye.
Bye. Waouh, ça c'est du bol. Quand je vais dire ça aux copains, ils vont pas y croire. Un peu plus, je voyais débarquer Mark Hamill. Salut Mark, tu vas bien? Ah, d'accord, vous faites une petite bouffe? Toi, George, Kerry et Harrison? Ça va être cool. Tu m'invites? Non, je peux pas, c'est gentil. Toi aussi, tu m'invites, George? Vous êtes trop sympas, les gars. Bon, allez, Jessica, on se ressaisit. L'air de rien, il y a du boulot. Alors, je sais, vous n'allez pas être content, monsieur Lucas, mais je vais commencer par la musique de Star Wars.
You have just heard Star Wars.
Vous venez d'entendre Star Wars.
The Birth of a Myth.
La naissance d'un mythe.
By Philippe Touzé.
De Philippe Touzé.
With George Lucas.
Gerard Watkins.
Jessica.
Pauline Ziadé.
Mary Jo.
Florence Janas.
Mary Ann.
Marlène Goulard.
Administratrice.
Fleur Sulmon.
Alan Ladd Jr.
Benjamin Egner.
Administrator 1.
François Tavares.
Administrator 2.
Alexandre Lachaud.
Bruitage.
Elodie Fiat.
Prise de son, montage, mixage.
Antoine Viossa et Pierre Monteil.
Assistante à la réalisation.
Manon Dubus.
And réalisation.
Sophie Aude Picon.
J'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Et j'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait, mon dos, ma peau se transformait en pyrogravure.
La guerre des étoiles, George Lucas, qui commence. Jean-Louis, peut-être, rapidement.
Oui, si vous voulez.
Vas-y.
C'est-à-dire que c'est le genre de film pour lequel il faut se refaire une âme d'enfant, toute fraîche. Ce à quoi nous réussissons très bien.
Oui, enfin, toi.
Alors, la guerre des étoiles, c'est une énorme machine à l'américaine, remarquablement bien faite. D'abord, ce qui m'a intéressé, c'est de voir qu'on a pris tous les ingrédients de la littérature chevaleresque et qu'on les a transplantés naturellement dans le monde de la science-fiction. C'est-à-dire qu'il y a le bon et le méchant, Il y a un duel fantastique de Durandal. Alors, il y a des épées. Naturellement, c'est des rayons laser.
Oui. Non, c'est du néon.
C'est, ouais,
c'est tout simplement du néon.
Ah, voilà. Voilà, vous avez un exemple d'une âme qui n'est pas fraîche, celle de Sarensol, qui voit du néon alors qu'il faut voir du un laser. On se bat avec des rayons laser. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il reprend les idées, si vous voulez, des idées forces aujourd'hui. Par exemple, il y a une espèce d'écologie sidérale qui est assez marrante, parce que le jeune héros, c'est une espèce de fermier macrobiotique, c'est comme ça qu'on dit, oui. Et il y a deux idées qui sont intéressantes, une qui est rassurante et l'autre qui est inquiétante. L'idée rassurante, c'est que les machines peuvent se détraquer. Ouais, bon, ouais, Stanley Kubrick l'avait sublimement utilisé dans Space Odyssey. Mais c'est cette idée qu'un robot peut finir par être plus humain qu'un homme dans la mesure où il se détraque. Et c'est représenté par deux robots, un grand et un petit, c'est une espèce de Laurel et Hardy du cosmos, et qui sont qui clopinent, qui sont tombés amoureux l'un de l'autre. Il y en a un qui vous dit, est-ce que je vous prête mes circuits magnétisés, etc. L'autre qui dit, voulez-vous pas me toucher, vilain, c'est très marrant, etc. Et puis il y a une autre idée qui est moins rassurante, parce que, et ça là, ça c'est le genre qui m'inquiète, c'est que d'après ces messieurs, on va vers un monde qui est terriblement fasciste, c'est-à-dire qu'il y a un fascisme noir qui est représenté par les vilains, le chevalier qui est coiffé comme une espèce de samouraï dans sa planète forte, c'est le fascisme noir, mais qui est vaincu par une espèce d'autre fascisme, c'est un fascisme blanc. Là, ça commence à m'inquiéter, c'est-à-dire que la cérémonie finale, c'est Nuremberg, si vous voulez, en matière plastique blanche. Pas du tout. Quand il y a toute une foule, marche au pas cadencé, fait des gestes comme ça et porte le même uniforme, moi je flippe. Très sensibilisé à ça.
Je voulais dire que ces films-là étaient peut-être un peu dangereux. Enfin, dangereux pas d'un point de vue moral, mais peut-être d'un point de vue politique. Parce que ce sont des objets de consommation. Le film devient de plus en plus un objet de consommation de l'instant.
Et d'abrutissement total.
Et aucune réflexion n'est possible à partir de ce genre de film. Cela dit, ce sont des films qui sont extrêmement agréables à voir. Et La Guerre des Étoiles, c'est vraiment le grand pied. Absolument.
France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Star Wars, la naissance d'un mythe. Notre invité, Thomas Negaroff, historien, spécialiste des États-Unis, auteur d'un livre d'analyse sur Star Wars. Bonjour Thomas Negaroff.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Je pense que vous allez y prendre du plaisir parce que vous êtes absolument à la fois spécialiste et fan de la Guerre des Étoiles. Vous êtes d'abord et avant tout historien, enseignant à Sciences Po. Vous animez une rubrique quotidienne Histoire d'Info sur France Info entre midi et 14h. Vous avez écrit plusieurs livres dont Kennedy, une vie en clair-obscur, Charmant Colin en 2013, Bill et Hillary Clinton, le mariage de l'amour et du pouvoir, ça c'était en 2014 chez Talendier, et Je suis ton père, la saga de Star Wars, livre dans lequel vous revenez sur cette saga incroyable et vous faites un parallèle entre l'histoire des États-Unis et la lutte des Jedi et de Dark Vador. On a entendu une archive tout à l'heure qui valait le détour. Le masque et la plume. Et puis il y avait le grand Bory en grande forme. Alors c'est vrai qu'il est un peu largué sur le côté technique qu'on fond laser et néon, peu importe. Mais il nous parle de choses à la fois amusantes et pertinentes, comme d'habitude d'écologie sidérale. À un moment, il voit du fascisme noir et le fascisme blanc. Et moi, j'ai l'impression qu'on peut tout voir dans la guerre des étoiles, pas seulement une métaphore de l'Amérique, sur laquelle on va revenir parce que c'est votre analyse et qu'elle est intéressante. Mais voilà un vrai film à tiroir.
Oui, c'est un film, comme tous les grands films, comme le disait le grand Serge Danet, il y a des films qu'on regarde et des films qui nous regardent. Et je pense que, de fait, Star Wars nous regarde parce que, je sais pas vous, mais moi c'est un film que j'ai pu découvrir enfant et qu'on regarde en permanence et qui prend une saveur différente, non seulement en fonction des différentes époques auxquelles on le regarde, aux différents âges auxquels on le regarde. Et il change, l'objet change en fait. Mais ça c'est propre à toutes les grandes œuvres de fiction. On pourrait, alors c'est une auberge espagnole, moi j'ai fait un livre d'histoire, d'analyse, mais il y a des livres de philosophes qui analysent la guerre des étoiles, des livres de mythologues qui analysent la guerre des étoiles via les mythes, des économistes via l'économie, des psychanalystes. Donc effectivement, c'est un livre ouvert extraordinaire. Peut-être aussi un test de Rorschach, peut-être que c'est comme un dessin, ce que dis-moi ce que tu penses de la guerre des étoiles et je te dirai qui tu es. Peut-être ça nous dit des choses sur nous, peut-être plus que sur l'œuvre. Mais contrairement à ce qu'on vient d'entendre quand même dans le masque et la plume de 77, ça ouvre quand même à réflexion. Je crois pas que ce soit uniquement quelque chose de ludique. Si ça n'était qu'un divertissement, je pense pas que 40 ans après, on serait ici dans ce studio en train d'essayer de disserter sur le sens de ces 7, 8, 9 bientôt épisodes.
Tout à fait. Et est-ce que on peut faire un parallèle avec une œuvre de fiction qui est une série en ce moment et qui est un phénomène mondial avec comme une communauté, La Guerre des Étoiles, c'est aussi presque communautaire, hein. Il y a ceux qui l'aiment, en parlent, ils se retrouvent, c'est des fans dans le bon sens du terme. Game of Thrones par exemple, est-ce qu'il y aura un parallèle?
Oui, il y a un parallèle parce que on est en apparence face à des œuvres qui sont à la fois d'une série dans les deux cas, mais surtout des œuvres qui, en apparence, sont déconnectées du quotidien.
Oui.
On est dans un autre temps, un autre monde, un autre espace, une autre technologie. Mais c'est là que ce sont des objets culturels universels, c'est des choses qui nous parlent de nous, qui nous parlent de notre époque et qui utilisent un faux-nez qui peut être un déguisement, qui peut être une peau d'ours, qui peut être un laser ou un néon, mais qui en fait nous parle de notre époque. Et je crois que c'est ça qui est fort dans ces deux objets culturels, vous avez raison de les rapprocher à mon avis, qui dans chacun des deux cas vraiment nous offre un piège. Le piège c'est, regardez, c'est une œuvre de science-fiction, mais mon grand-père me disait toujours, la science-fiction c'est de la fiction mais c'est aussi de la science. Donc c'est, ça nous parle aussi du temps présent évidemment.
Alors, Georges Lucas est américain et votre thèse, vous, c'est que La Guerre des Étoiles s'inspire et s'appuie sur l'histoire des USA. Alors, on va voir ça en détail, mais globalement, qu'est-ce qui suscite chez vous cette réflexion qui est presque un réflexe, vous le voyez et vous pensez à ça?
Ah oui, ça m'a sauté aux yeux pour le coup. Et en fait, ça a été ensuite conforté par une découverte dans les archives de la saga. On est entre l'épisode 1 et 2. Alors historiquement, chronologiquement 1 et 2, mais pour les spécialistes, entre le 4 et le 5, vous savez que c'est compliqué, hein, les deux trilogies. Ça a commencé par l'épisode 4, 5, 6, et puis après 1, 2, 3 dans l'histoire, hein, de la chronologie. Mais bon, bref, on est entre le premier tournée et le deuxième tournée, et les scénaristes demandent à George Lucas, ok, aide-nous un peu, dis-nous cet empereur Palpatine, qui est en fait l'empereur qui va détourner la démocratie à son profit pour mettre en place un régime totalitaire, autoritaire, dictatorial. Et on lui demande, mais faut que tu nous donnes un peu d'éléments, c'est qui ce personnage, ce Palpatine? C'est Hitler, c'est Staline, aide-nous un petit peu. Et effectivement, il y a des codes esthétiques qui empruntent au grand totalitarisme, c'est vrai. Et Lucas l'a dit, parce qu'il sait très bien que nous, spectateurs, on est habitués à ces images-là. On a besoin d'avoir du Leni Riefenstahl, on a besoin d'avoir Nuremberg pour se dire, ah, on imprime dans notre tête, dans notre mémoire collective, ça c'est une dictature. Mais quand on lui pose la question à George Lucas, on est en 1978-79, il dit, ce Palpatine, c'est Richard Nixon. Richard Nixon, parce que, vous l'avez dit au début, Richard Nixon, c'est le président de la jeunesse de George Lucas, de la genèse de l'œuvre.
Oui.
Il commence à l'écrire en 73, c'est la guerre du Vietnam. C'est tous les idéaux américains qui sont dévoyés. Mmh. Et ça ne parle finalement que de cela, cette histoire. Et quand il dit, quand je lis, moi, dans les archives, le méchant, c'est pas Hitler, c'est Richard Nixon, je me dis, ben voilà, on est au cœur de l'histoire américaine, et d'abord et avant tout, George Lucas, américain, parle à ses concitoyens. Après, il y a un discours universel qui fait que vous et moi, ça peut nous toucher, parce que le bien et le mal n'est pas une invention américaine, et que le dévoiement d'une démocratie non plus, et on le voit régulièrement, y compris de ce côté-ci de l'Atlantique, mais au départ, c'est une histoire essentiellement et éminemment américaine, même si elle tend vers l'universel.
Alors cette lutte entre le bien et le mal peut être aussi un regard sur ces guerres à travers lesquelles les États-Unis se retrouvent avec le recul face à leurs contradictions également, non ?
Oui, c'est vraiment ça. Ça commence tôt, hein, vous savez, les États-Unis se sont, n'oublions jamais ça, construits contre un empire. Ce sont des colonisés, des peuples colonisés, qui se retournent contre la puissance métropolitaine, l'Angleterre, on est à la fin du XVIIIe siècle. Et il y a tout de même assez vite, va naître chez cette jeune nation, une tentation impérialiste qu'on commence à repérer, alors de manière un peu diffuse, au XIXe siècle et surtout à la fin du XIXe siècle avec les premières guerres impériales américaines qui sont menées aux Philippines, mais préalablement à Cuba, au nom des idéaux, chasser les Espagnols. En réalité, il y a le dévoiement des valeurs, puisque cette nation construite contre un empire est en train de devenir un empire. Et ce qui est passionnant, c'est que je crois que Lucas s'inscrit complètement dans cette tradition progressiste américaine anti-impérialiste, dans laquelle on retrouve des gens très illustres, comme Mark Twain par exemple. Mark Twain, hein, le grand Mark Twain, c'est l'un des animateurs de la première ligue anti-impérialiste qui va naître aux États-Unis à la fin du XIXe siècle. Et puis cette tentation l'invasion impérialiste, on va la retrouver évidemment à plusieurs reprises dans l'histoire.
Et surtout au Vietnam.
Et voilà.
Et surtout au Vietnam.
Bien sûr, la guerre du Vietnam qui a une place essentielle dans la saga. Les Ewoks.
Les Ewoks.
Voilà, ces petits personnages, et Lucas ne l'a pas caché, ce sont les combattants Viet Minh qui, par leur courage, par leur foi, par leur intelligence, parviennent à vaincre un empire ultra technologique, ultra puissant, mais qui, dénué d'un idéal porteur de valeurs communes et collectives, est détruit. Donc on est effectivement dans une lecture très intéressante, je trouve, de l'histoire américaine.
Ça rappelle la phrase de Ho Chi Minh, qui avait cette métaphore animalière. Il dit, vous avez un éléphant, il est gros, il est puissant, et puis vous avez un insecte qui entre dans la trompe et qui va monter, monter, monter jusqu'au cerveau, c'est ça.
C'est vraiment ça, et cet insecte, ce sont les valeurs en fait. Cet insecte, dans la tête de George Lucas, c'est pas tellement le Viet Minh, parce qu'il peut pas être taxé de communisme, mais c'est plutôt ce que l'Amérique aurait dû continuer à être, ou ne jamais cesser d'être. Et ce qui est intéressant, c'est que, quand on regarde bien le générique, vous savez, qui déroule, qui est hyper connu, hein, sur la musique, on vous parle d'une guerre civile. Et quand on est américain et qu'on entend guerre civile, on pense forcément en termes de guerre entre un empire et des gens qui luttent pour leur indépendance. C'est de cela dont il s'agit.
Thomas Negaroff, avant qu'on fasse une petite pause musicale et qu'on revienne sur ces parallèles, ces métaphores, vous pouvez m'expliquer le titre de votre livre, Je suis ton père, la saga de Star Wars? Ça veut dire quoi ça?
Parce que Je suis ton père, c'est quand même la phrase emblématique. Alors, c'est compliqué, il y a 150 pages pour expliquer pourquoi ça s'appelle Je suis ton père, mais en gros, l'idée de Star Wars, c'est quand même un enfant qui cherche son père. Mais après, on peut basculer, et c'est aussi une nation qui cherche son père, qui a perdu ses repères, et qui, alors là, plonge parfaitement dans les années 70, où l'Amérique, qui a perdu le Vietnam, la guerre du Vietnam, donc avec une interrogation sur l'homme puissant, l'homme blanc viril, il y a une dévirilisation de la société très forte aux États-Unis, une interrogation sur c'est quoi un homme aux États-Unis dans les années 70, ils vont d'ailleurs se donner un président, Jimmy Carter, qui est le contraire du président fort et viril, comme l'étaient les prédécesseurs, mais après on y reviendra avec Ronald Reagan. Et puis c'est cette histoire donc effectivement de quête de repères, ce président américain, Richard Nixon, qui a menti aux Américains. Il faut savoir que le président, c'est une figure paternelle par excellence. Et donc, vous avez comme ça l'image même d'une société patriarcale qui est en train de s'effondrer, de s'effriter. Et Lucas offre une réponse à cela en faisant un film dans lequel l'objectif, l'objet même et l'ordre ne sera rétabli dans le cosmos que lorsque le fils aura retrouvé son père. Vous comprenez que forcément, ça a pu résonner dans l'Amérique des années 70 et 80.
Thomas Negaroff, moi je vais revoir La Guerre des Étoiles, parce que vous m'avez dit, je la ferai, je pense, avec un autre œil. On se retrouve dans quelques minutes.
C'est le côté obscur de la force. C'est le côté obscur de la force. C'est le côté obscur de la force.
Le sombre monarque débarque et étale son pouvoir, la puissance de l'ombre s'installe. Non, ne résiste pas, ne lutte pas, ne te détourne pas de la main tendue vers toi, où je vais explorer le royaume de tes peurs en devenir le dictateur pour mieux te dominer. Là, tu deviens raisonnable, c'est bien, oui, tombe sous le charme pour de meilleurs lendemains. Pour les rebelles, la force est trop forte, je balaye les petits Ewoks comme le feu en balaye les feuilles mortes. Les indécis sont avertis qu'ils se méfient de la seule étoile qui se fond dans la nuit. Le bastion de bas-fond du pays en action, l'énergie dégagée génère une telle attraction que vers lui se tournent enfin tous les regards pour s'apercevoir que l'espoir émerge du noir. Une partie de tout homme, la force manipule de rien, il suffit pour que l'être bascule, que les yeux de l'aveugle s'ouvrent, qu'il contemple Mars de l'obscur côté. Le temple n'est pas peur, ouvre-moi ton cœur, viens vers l'empereur, sentir la chaleur de l'obscurité. Pour toi il est l'heure de rejoindre l'armée des guerriers de l'ombre. Ne vois-tu pas ton côté clair qui succombe, c'est ta destinée. Pourquoi vouloir lui résister sans peine, je ferai sauter les verrous de ta volonté. Sois l'autre dans la noire, sur la plus pure de l'empereur, et arbore les couleurs du côté obscur.
Obscur, ta force est noire, noir comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur, ta force est noire, noir comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur.
Fais ce dernier pas en direction de la force obscure.
Dans toi te révélera la vraie nature de la force.
Comprends-tu maintenant ce qu'est la force obscure?
La force.
Thomas Négaroff, on se retrouve pour parler de la guerre des étoiles, et vous nous en parlez de façon passionnante. Alors, on parlait de la figure paternelle, la figure virile d'un pays qui se veut viril et fort. Alors, il y a eu effectivement Nixon, hein, aux États-Unis. Puis il y a eu Reagan aussi. Ronald Reagan. Qui tient une place particulière. Vous savez que, aujourd'hui, quand on interroge les Américains, c'est une statistique que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps. On leur dit quels ont été vos plus grands présidents. Ils citent Roosevelt, évidemment, pour le New Deal, la guerre. Ils citent Kennedy pour le mythe. Et ils citent Ronald Reagan pour la force de l'Amérique. Il avait dit d'ailleurs, je me souviens, quand Reagan avait fait son discours d'investiture en 80, il avait dit « l'Amérique est de retour hein, », quelque chose comme ça, America par rapport à l'Iran. Back. Voilà, « America is back ». Alors, Reagan et la guerre des étoiles.
C'est une relation éminemment complexe, parce que Lucas, progressiste, californien, milieu de gauche, pas hippie lui-même, mais dans ce monde-là, déteste les conservateurs, déteste tout ce que représente Ronald Reagan et son électorat. Pour autant, et c'est le drame peut-être de cette saga, c'est qu'elle a déroulé un tapis à l'élection de Ronald Reagan.
Pourquoi ?
Parce que je vous disais tout à l'heure que cette saga, finalement, est une saga qui a l'air contre-culturelle, puisqu'elle semble critiquer l'impérialisme américain, puisqu'elle semble considérer que les États-Unis ont failli à leur mission en cédant à la tentation impérialiste, mais pourtant, derrière cette impression, qui est une impression réelle, il y a aussi une saga qui est éminemment réactionnaire. Elle est réactionnaire parce que quand on regarde bien la saga, et notamment les premiers épisodes, ceux qui précèdent et qui même entourent l'arrivée au pouvoir entre 77 et 83, vous avez les trois premiers épisodes, on est vraiment avant, et l'arrivée de Reagan et puis sa réélection triomphale en 84. Eh bien, que nous dit la saga ? Elle nous dit, quand on la regarde bien, que le désordre apparaît dans le cosmos et donc dans chacun d'entre nous lorsque le père n'est pas le père et le fils n'est pas le fils. C'est-à-dire que quand le père n'est pas reconnu en tant que père, la figure paternelle. Les premiers épisodes de Star Wars sont éminemment réactionnaires dans la mesure où quand on regarde bien la saga, vous avez 9 heures d'épisodes et à partir du moment où Dark Vador reconnaît que son fils est son fils, mais pas uniquement pour une astuce comme dans le deuxième épisode, mais il le sent vraiment. Et d'ailleurs, il enlève même son masque. « Regarde-moi !» Et son fils lui dit « Mais attention, tu vas mourir si tu enlèves ton masque !» Et il dit « Mais tu m'as déjà sauvé !» Enfin, il y a toute une histoire entre le père et le fils. À ce moment-là, il reste quelques minutes de film et l'ordre se rétablit dans le cosmos. Et c'est fascinant de voir à quel point l'ordre promu par cette saga est un ordre patriarcal sur lequel va surfer pour arriver au pouvoir Ronald Reagan, sur les valeurs familiales, sur les valeurs d'ordre qui seraient détruites par les progressistes, par les démocrates de tout poil qui ont pris le pouvoir, selon lui, aux États-Unis depuis les années 60. Et ce qui est terrible pour George Lucas, qui déteste au point de faire des procès à Ronald Reagan quand il emploiera l'expression de guerre des étoiles, souvenez-vous, pour
le bouclier antimissile, absolument.
En 1983, Reagan présente son bouclier antimissile, l'IDS, et les médias vont dire « c'est la guerre des étoiles ». Et l'administration elle-même, Reagan dira « oui, oui, c'est la guerre des étoiles ». Sauf que il détourne le projet de guerre des étoiles de George Lucas en disant « nous sommes les gentils, les méchants, c'est pas nous, les méchants, c'est les soviétiques ». Et c'est génial de voir à quel point cette binarité du bien et du mal que Lucas avait pensé comme étant le bien et le mal intrinsèque à la société américaine, a été digéré par les élites politiques de droite américaine comme étant l'opposition du bien et du mal, entre les États-Unis étant le bien absolu, le reste du monde, l'URSS étant le mal absolu. Et deux procès contre Reagan, ça dit à quel point il a été l'objet finalement d'un détournement lui aussi du sens de son œuvre, même si je pense que moi, fondamentalement, l'œuvre avait des germes très réactionnaires.
Alors, mon esprit qui est plus simple que le vôtre...
J'espère pas trop compliqué.
Non, mais on comprenait très très bien, je plaisante. George Bush et l'axe du mal, moi ça me fait penser à ça aussi.
Bien sûr.
Mais au premier degré, enfin ouais. Bon, comme n'empêche.
Alors, ce qui est intéressant avec George Bush, c'est qu'on arrive là à la deuxième trilogie en fait. C'est que la première trilogie dans les années 70-80, c'est l'idée de la quête du père, ok, ça on l'a compris, et donc ça prépare la révolution réaganienne. La deuxième, c'est comment le mal peut s'emparer de nous. Comment une démocratie peut devenir un régime totalitaire sous les applaudissements de la foule ? Et l'explication de George Lucas, c'est de dire, eh bien, par un usage raisonné de la peur par les dirigeants. Quand les dirigeants utilisent la peur à bon escient, les peuples ont tellement peur de perdre l'ordre établi qu'ils acceptent de se lier les mains et ils acceptent, par exemple, un état d'urgence permanent, etc. Et ça, c'est l'histoire des États-Unis autour du 11 septembre 2001. En tout cas, c'est comme ça que George Lucas le présente. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que vous avez deux trilogies. La première, c'est la guerre du Vietnam et l'arrivée de Reagan. La deuxième, c'est la fin des années 90, début 2000. C'est comment les États-Unis, avec le Patriot Act, par exemple, renoncent, mais dans la joie, aux libertés fondamentales qui, pourtant, avaient présidé à sa naissance.
Alors, ces références et les références de la guerre des étoiles ne sont pas qu'historiques. Hein. Lucas emprunte autant aux mythes populaires ou qu'ils sont devenus. Alors, je parle des films de sabre, films de guerre, séries sur l'espace, et références aussi entre la grande histoire et les mythes populaires. C'est d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et est-ce que c'est une force aussi également?
Ah oui, bien sûr. On n'est pas que dans l'histoire américaine, d'ailleurs. Il a avoué, il a expliqué avoir lu le bouquin de Campbell, Le héros aux mille visages, qui est en fait une espèce de synthèse de tous les mythes de quête. Pas que de père d'ailleurs, de toutes les quêtes. Et donc, il a pris ce livre d'un professeur assez obscur qui ensuite est devenu une immense célébrité qui a vendu des millions de son livre. Et quand on regarde un peu le livre, on voit effectivement qu'il a puisé dans des mythes, alors à la fois la légende troyenne, mais aussi dans des mythes hindous, par exemple. Il y a vraiment c'est une espèce de fourre-tout un peu mythologique, mais qui l'a beaucoup intéressé. Et c'est vrai qu'on peut aussi, hein, moi je lis beaucoup le Star Wars, je regarde Star Wars avec des yeux de spécialiste des États-Unis et ça me saute aux yeux, mais des experts de la mythologie médiévale, par exemple, verraient Arthur évidemment surgir ici ou là. Et je crois que c'est aussi ça, hein, qui donne le caractère universel à cette œuvre. C'est que, évidemment, si on en était resté à une espèce d'analyse de texte un peu convenue sur l'histoire américaine, ça n'aurait intéressé personne ou pas grand monde, à part dans des universités. Si ça intéresse le plus grand nombre, c'est parce qu'on touche à l'universel. Et l'universel, il se trouve évidemment dans les mythes, mais aussi dans le rapport du bien et du mal, parce que Star Wars, c'est comment une nation passe du bien au mal, mais aussi comment l'individu passe du bien au mal. Parce qu'en fait, toute l'histoire, c'est de voir comment le jeune Anakin Skywalker devient Dark Vador.
Mais ça passe aussi par les peurs aussi. La peur, bien c'est sûr. Important. Bien On sûr. Peut faire un autre parallèle, par exemple, avec Hitler, où certains historiens ou philosophes disent que l'adhésion du peuple allemand à Hitler n'était pas une adhésion, c'était une peur.
Bien sûr.
Et
bien
ça
sûr.
Montre aussi ça.
Bien sûr. Et d'ailleurs, j'en parle dans le livre, la peur du rouge, la peur du juif, qui se trouve être souvent rouge dans la bouche des nazis. Bien sûr, tout cela a joué un rôle extraordinairement important. Ça a été beaucoup, beaucoup étudié aux États-Unis, cette rhétorique de la peur. Vous savez, Richard Nixon disait souvent, on ne l'apprend pas dans l'école biblique du dimanche, mais les gens réagissent plus à la peur qu'à l'amour. Et il le disait avec un sourire qu'on peut imaginer un petit peu cynique.
Alors, on parle quand même d'un film. Alors, avoir votre avis quand même sur le côté plastique et artistique du film. Est-ce que c'est du grand cinéma?
Alors, je ne suis pas critique cinéma, mais je trouve que...
opinion quand même.
Oui, bien sûr. Moi, je trouve que alors, c'est plus ou moins des bons films. C'est-à-dire que vous en avez aujourd'hui 7.
Ouais.
Je pense que certains sont des grands films. Je pense que le quatrième et le cinquième épisode sont des grands films. En revanche, je pense que le nouvel épisode de la deuxième trilogie, celui de 1999, était beaucoup trop jeune en termes d'effets spéciaux. Du coup, c'est un gloubi-boulga d'une sorte de jeu vidéo un peu raté. Mais il y a toujours une dimension spirituelle qui me plaît beaucoup et qui malheureusement a disparu avec, non pas le rachat par Disney de la licence.
En 2012.
Voilà, non pas le rachat de Disney de la licence, parce que Disney peut aussi faire des grands films, c'est pas la question. Mais à partir du moment où Lucas a lâché l'affaire et que désormais il y a une nouvelle, c'est devenu une licence, c'est devenu une marque. Et d'ailleurs, le septième épisode est une espèce de synthèse d'hommage au travail de George Lucas. Du coup, moi, dans mon étude, je suis obligé de m'arrêter un peu après les deux trilogies parce que le sens même de l'œuvre, je trouve, s'est achevé avec les deux trilogies. Maintenant, on est dans la répétition, dans l'hommage, dans la licence, dans les produits dérivés, qui étaient aussi d'ailleurs un des objectifs de George Lucas.
Et dans l'exploitation.
Et dans l'exploitation.
Hein,
mais j'insiste quand même sur une chose. Hein, George Lucas, dès l'origine, avait aussi la bosse du commerce et quand il a réussi à négocier avec 20th Century Fox, il a négocié de pouvoir conserver les produits dérivés. Il avait aussi un œil assez malin sur les choses.
Bien, bah vous irez voir le 8e quand même.
Avec plaisir.
Bon, ce sera un comble.
Mais oui.
Merci infiniment.
Merci.
Au revoir. Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Star Wars, la naissance d'un mythe. Une fiction écrite par Philippe Touzet, réalisée par Sophie Haute-Picon. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet, réalisée par Al Nioro. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Anne-Laure Cochet.